C'est, il reste des feuilles du cours de la semaine dernière sur la table à droite. La table de bois, juste là devant mes yeux, de la semaine dernière. On va aller dans un mot de prière, ce serait approprié pour un cours sur la prière, puis on va débuter. Seigneur Jésus, tu nous as fait découvrir des dimensions de la prière comme elles n'avaient jamais été révélées avant ta venue. Par toi, Seigneur, par ton enseignement, mais par ton œuvre, la prière prend toute une autre dimension. Il y a une profondeur, il y a une richesse, il y a une intimité qui devient réelle, Seigneur, parce que tu nous as fait connaître ton Père comme il ne s'était jamais révélé auparavant. Je te prie, Seigneur, de nous faire grandir à travers tout ce cours sur la prière et que ça ne demeure pas que de la théorie, mais vraiment que aller dans la prière soit vraiment un lieu de paix, un lieu de communion, un lieu d'intimité avec toi et d'intimité avec des frères lorsqu'on prie ensemble, avec des sœurs. Seigneur, fais-nous grandir dans cette vie de prière qui est tellement précieuse pour nos âmes, qui te glorifie et par laquelle, d'une manière mystérieuse, tu entres en action, Seigneur. Tu nous rends complices de ton œuvre par la prière. Alors, je te prie d'encourager ceux qui hésite à consacrer du temps chaque jour à la prière, ceux qui répugnent encore ou qui sont insécures. Je te prie d'instruire davantage ceux qui sont déjà des gens de prière parmi nous, Seigneur. Viens, Seigneur, faire grandir cette Église afin que ce soit véritablement une maison de prière. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Si vous avez des questions pendant le cours, n'hésitez pas à juste à lever la main, s'il vous plaît, pour que je puisse répéter la question ou qu'on fasse circuler un micro. Si on a un micro de disponible, Yuraï. Je ne sais pas si je vais me faire chicaner si je commence à l'appeler comme son épouse l'appelle. Mais donc, n'hésitez pas, tout à fait confortable si c'est interactif, d'accord? Moi, comme j'ai partagé d'innombrables fois maintenant à l'Église, la prière, pour moi, c'est encore un terrain en découverte. Je suis encore en train de défricher la forêt de la prière. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, je pensais que j'étais un initié. Mon premier pasteur était un homme de prière incroyable, Richard Roule. Et donc, tant qu'il a été présent et qu'il me coachait en plus personnellement, j'ai été choyé. Très tôt, j'ai été coaché par lui, mais il l'incarnait dans l'Église aussi. Notre Église était une Église qui priait beaucoup. Cette Église, à l'époque où Richard Roule était pasteur principal, et il a dû quitter dans une crise d'Église. Puis un an après, j'ai réalisé que je priais presque plus. Donc, j'ai pris conscience à ce moment-là que je n'étais pas encore un arbre mature dans la prière. J'avais besoin d'un tuteur, puis quand mon tuteur m'a été enlevé, le pommier a commencé à accrocher comme c'est pas possible. Et on a un arbre fruitier devant notre maison là, où on habite, puis on doit changer le tuteur à chaque année parce qu'il est plus fort que tous les tuteurs qu'on met pour essayer de le redresser. Mais moi, je suis un vieil arbre tout croche qui est encore en train de découvrir la prière. Mais par la grâce de Dieu, depuis plusieurs années maintenant, vraiment, la prière est l'exercice, je vais dire comme ça, est la chose qui me procure le plus de paix. Ce n'est pas seulement comme l'exercice spirituel. J'allais dire l'exercice spirituel, tu sais, ça peut être la louange, ça peut être un bon temps avec des frères et sœurs, un repas avec des frères et sœurs, puis on échange ensemble. Ça peut être une prédication qui touche. Peut-être, toi, c'est lire un bon livre chrétien. Honnêtement, au-delà de ça, pas seulement dans le domaine spirituel, j'aime faire du sport, je vous le dis, ça me fait du bien, ça m'apporte énormément de détente, une bonne session de sport. C'est jamais autant que la prière. Donc, depuis plusieurs années, ce qui m'apporte le plus de paix, qui fait le plus de bien à mon cœur, à mon âme, même à mon corps, c'est la prière. Et donc, c'est ma prière pour vous que vous expérimentiez ça. Et honnêtement, je vous le dis sans prétention parce que je ne suis pas en train d'essayer de me présenter à vous comme l'expert de la prière. Je suis tellement loin de ça. C'est encore une terre que je suis en train de défricher, tout simplement, puis en train d'apprendre. Je vais juste mettre ça pour ne pas oublier mon temps. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à partager une expérience que vous vivez en relation avec ce qu'on est en train de mentionner ici. Ce matin, ce qu'on parle ensemble, c'est vraiment la dimension du fait que la prière, c'est une rencontre avec une personne. Quand tu vas dans la prière, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est mystérieux, c'est un peu intangible parce que cette personne est invisible. Tout à l'heure, je vais prendre un repas au café crème avec quelqu'un. Mais la personne va être là devant moi, puis si je fais un silence assez prolongé, je vais entendre sa voix, va dire, elle va lancer une conversation, tu sais. Mais avec Dieu, ce n'est pas toujours le cas. Le silence peut être très, très prolongé avant qu'à un moment, le Saint-Esprit te rappelle un passage, t'apporte une requête, te donne un sujet de louange. Les silences sont plus longs des fois dans la prière. Donc, je sais qu'il y a une dimension intangible, mais c'est vraiment une rencontre. Je m'en vais vraiment à la rencontre d'une personne. Et j'ai besoin de prier et d'expérimenter la prière jusqu'à temps que je vive cette conviction-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, tôt dans ma vie chrétienne, il y a une dimension de la prière qui est devenue très, très vraie, même si je suis encore en train d'apprendre à prier. C'est la paternité de Dieu pour moi. Depuis le début de ma vie chrétienne, le mot que je dis le plus souvent, le nom de Dieu que j'utilise le plus souvent dans la prière, c'est Père. Je commence, Père. Et ça, pour moi, ça me parle de mon intimité. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là parce que mes enfants ont juste à dire « Pop ». Ils ont juste à m'envoyer un texto « Pop ». Je suis là, je suis disponible tout de suite. Ils me disent « j'ai besoin que tu viennes. Attends, tu habites à Montréal, il y a une tempête dedans, j'ai besoin que tu viennes. J'arrive, je suis là. Pas de problème, je vais tasser n'importe quoi, je vais être là. » Et donc, moi, dans la prière, Père, c'est le mot, c'est le nom de Dieu que j'utilise le plus souvent. Je prie régulièrement au Seigneur Jésus, je m'adresse au Saint-Esprit, j'utilise d'autres noms de Dieu, mais Père, c'est énorme pour moi. Ça parle de cette personne qui est là, qui est disponible pour moi. Si vous regardez dans vos notes à la page 1, la prière est bien plus qu'un simple exercice religieux, une récitation de paroles. C'est une véritable rencontre. Je m'en viens rencontrer une personne. Et cette rencontre-là va me transformer. Lorsque je vous disais que pour moi, il n'y a rien d'aussi apaisant que la prière maintenant, gloire à Dieu, j'ai aucun mérite, mais ça veut dire que ça me transforme. Si je vis de l'anxiété, puis que de passer 20 minutes, 30 minutes, 10 minutes dans la prière fait que mon taux d'anxiété baisse, je retrouve un sourire, ma perspective sur la journée change, bien littéralement la prière me transforme. Je ne suis pas la même personne 10 minutes plus tard que 10 minutes avant, littéralement. Et ce n'est pas parce que j'ai pris un verre de vin, puis là, je suis détendu, ou j'ai mangé mes petits biscuits sucrés, puis là, j'ai des hormones de plaisir qui viennent d'être sécrétées parce que j'ai mangé du sucre, ou je ne sais pas quoi, là, vous comprenez? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai refocusé sur la personne de Dieu, je me suis appuyé sur ses promesses, j'ai confiance dans notre relation, je sais qu'il m'aime, il est là pour moi. Ça me transforme littéralement. Et c'est le moyen privilégié que Dieu prend pour nous transformer. On va l'aborder un petit peu plus loin, mais la parole de Dieu n'est vraie pour nous que lorsqu'elle change notre cœur dans la prière. C'est le test ultime de la véracité de la parole de Dieu pour nous lorsque dans la prière, mon cœur s'accorde parfaitement avec la parole. Je vous donne un exemple. Tu vis un combat, il s'est passé quelque chose, quelqu'un a été mesquin avec toi au travail, ou tu vis une injustice, ou tu as une convoitise, ou tu vis un combat. Tu vis un combat, tu as envie d'aller consulter de la pornographie sur Internet, là, t'es allumé, t'es là, c'est ça que tu veux, là. T'es comme un orignal en rut, tu deviens con comme un bœuf, parce que tu veux juste aller consommer ton péché. Puis là, tu décides d'aller dans la prière, puis tu t'arrêtes dans la prière, puis tu prends la parole de Dieu. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous sera imposée qui sera au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, avec la tentation, Dieu va pourvoir à la solution pour s'en sortir. Puis là, tu passes ce temps-là dans la prière. Puis ton cœur s'aligne avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est jamais aussi vraie pour nous que ce qu'elle est pour nous dans la prière. Si dans la prière, je prends des textes de la parole de Dieu, je prends le temps de les méditer et mon cœur, mes désirs, mes impulsions, mes émotions, mes affections, ma volonté s'alignent avec les Écritures, c'est là que je vais le voir dans la prière. Et c'est pour ça qu'on va souvent dire, mais dans le fond, l'absence de prière, c'est un des symptômes les plus importants pour déterminer mon état spirituel. Plutôt que d'aller prier, je vais aller poursuivre ma série Netflix pour oublier le stress de la journée. Plutôt que d'aller prier, je vais faire ceci. Qui sont toutes, il y a plein, c'est toutes des bonnes choses, là. Mais la théologie du repos se trouve en Dieu. Puis ça, c'est autre chose, c'est des loisirs. Ça peut contribuer à mon repos. Hein, les loisirs peuvent contribuer à mon repos. Je veux dire, aller prendre des vacances dans le sud, ça peut contribuer à mon repos. Mais la théologie du repos dit que mon repos est en Dieu. Puis après, tout le reste, c'est un contexte. C'est juste un contexte. Mais ce n'est pas pour éviter ce temps qui devrait être passé avec Dieu à rencontrer Dieu. Je ne suis pas en train de fuir ce moment-là. Et donc, si je vis de l'anxiété, du stress, quoi que ce soit, des frustrations, des peines, whatever, et que plutôt que de prendre le temps dans la prière, je m'en vais vers quelque chose d'autre qui va faire, juste comme, tu sais, ça va être de l'apaisement, ça va me distraire de quelque chose qui me met de la pression, bien, c'est que j'ai pas encore la maturité de prendre la parole de Dieu et dire, OK, Seigneur, je m'en vais avec tes mots, avec ta parole, là, puis je m'en vais dans la prière jusqu'à temps que ta parole aligne mon cœur, mes pensées, que je m'accorde, que vraiment là, mon cœur soit au diapason, que je sois accordé avec ta parole. J'aime cette citation lorsqu'il dit, Timothy Ward qui dit, « Rencontrer les mots des Écritures revient à rencontrer Dieu en action. » Donc, pense à une situation cette semaine qui te met de la pression. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être juste un livrable, quelque chose, quoi que ce soit. Pense à cette situation. Est-ce que tu peux penser à un passage des Écritures qui, en principe, si vraiment tu vivais ce que ce passage-là dit, tes sentiments changeraient? Tu sais, si tu as un gros livrable, tu as des travaux à remettre cette semaine, je ne sais pas, à l'école, tu as un examen qui s'en vient, tu as un projet au travail qui t'attend, tu as un coup de fil, il y a quelqu'un qui attend ton appel, tu sais que tu as un rendez-vous cette semaine, ça ne t'intéresse pas de le faire, ça va peut-être être désagréable, ça va peut-être mal tourner. Tu vas voir ton médecin t'a appelé, puis il dit, viens t'en, il faut que je te donne des résultats, puis là, tu dis, aïe, 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 quand le médecin veut te voir, ce n'est pas des bonnes nouvelles, tu sais, puis là, tu crains ça. Pense à cette situation-là. Pense à un passage maintenant dans les Écritures qui pourrait changer ton cœur face à cette situation. Une promesse. Une promesse de la présence de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la provision de Dieu. Est-ce que tu peux prendre cette promesse-là puis aller passer du temps dans la prière, suffisamment de temps dans la prière pour que ton cœur s'accorde avec la parole de Dieu? Et voyez-vous la différence entre méditer puis prier? Méditer, je vais lire le texte, puis je vais le méditer, puis je vais dire, ah oui, c'est ça que ça veut dire. Mais je ne suis pas nécessairement encore en conversation avec Dieu pour dire, Seigneur, je ne te crois pas. Je ne suis pas encore en conversation nécessairement avec Dieu pour dire, oui, puis, c'est théorique, Seigneur. La réalité, là, c'est que j'ai ça demain qui s'en vient. Méditer, je peux ne pas me rendre à cette conversation avec Dieu. Mais quand je prends le même texte que je vais dans la prière, puis je dis, Seigneur, je ne te crois pas. Si je te croyais, je serais en paix. Non, ça ne se dépose pas en moi, ça ne change rien. Là, c'est de la théorie, c'est pour quelqu'un d'autre. Ésaïe, cette semaine, le passage qui me fait le plus de bien, c'est Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Vous pourrez aller lire ça. C'est un passage qui me fait énormément de bien de ce temps-ci. Oui. Alors, qui nous rencontrons? Si la prière est une rencontre, qui rencontrons-nous? Bien, on rencontre le Dieu trinitaire, le Dieu tripersonnel. Trinité, triunité, trois personnes. Quand quelqu'un vous dit, ouais, mais toutes les religions du monde prient. Ouais, mais attends, c'est pas tout le monde qui prie la Sainte Trinité. Parce qu'ils ne connaissent pas, évidemment. Donc, ils ne peuvent pas le prier. Mais tous ces dieux-là, tous ces faux dieux-là, comme on a dit la semaine dernière, dimanche dernier dans le message, tous ces faux dieux qui ne sont pas des dieux, tout au plus sont-ils des démons, peut-être. Mais ce n'est pas le Dieu trinitaire. Lorsqu'on va dans la prière, lorsqu'un chrétien va dans la prière, ce qu'un juif même ne saisit pas, un juif qui n'a pas cru en Jésus, je parle, vous comprenez? Un juif qui n'est pas devenu chrétien. Mais ce qu'un chrétien vit lorsqu'il va dans la prière, il va à la rencontre du Dieu trinitaire. Il va à la rencontre, c'est très mystérieux, de trois personnes qui est un seul Dieu. Et ça change toute notre perspective sur la prière, parce qu'en fait, je m'en vais rencontrer un être qui est profondément relationnel. Dans sa nature même, il est relationnel, il est trinitaire. Donc, de toute éternité, le Père, le Fils, l'Esprit sont en relation. Pour un chrétien, imaginez Dieu comme un être impersonnel, un être froid, distant, qui n'est pas relationnel, qui est impersonnel, hey, c'est se méprendre fondamentalement sur la doctrine chrétienne. Si dans mon esprit, Dieu est impersonnel, je suis à la base de qui est Dieu, c'est le Dieu trinitaire que les chrétiens adorent. Il ne peut pas être impersonnel, c'est trois personnes. Ce n'est pas un être froid et distant, c'est un être relationnel. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont en parfaite communion de toute éternité et le seront à jamais. Donc, si ta vision de Dieu, quand tu vas dans la prière, c'est comme, OK, Dieu est invisible. Jusque-là, je te suis, ça va, j'ai pas eu d'apparition de Jésus encore. Donc oui, il est invisible, ça va. Mais il me semble que tu es froid et distant. Ça parle juste de toi, ça parle pas de lui. Lui n'est pas froid et distant. C'est un être profondément relationnel. C'est trois personnes en Dieu, en un être, en Dieu. Et c'est Jésus qui nous l'a révélé comme personne d'autre. Dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la formule trinitaire par excellence. Nous ne baptisons pas les gens au nom de Dieu. Ça serait trop réducteur. On les baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et dans cette simple déclaration-là, Jésus affirme la Trinité, Jésus affirme qu'il est Dieu, Jésus affirme que le Saint-Esprit est Dieu. Parfois, Jésus va utiliser l'expression lui-même, il va parler de Dieu le Père, puis là, dans le passage, tu dis, on dirait qu'il est en train de nier sa propre divinité. Tu sais, il y a des passages qui sont mystérieux, où, comme on dirait qu'il ne veut pas s'attribuer la divinité. Et là, ici, il est super clair. Et donc, lorsqu'on baptise quelqu'un, quand on le fait passer dans les eaux du baptême, on lui dit, « Voici par ta foi, tu es maintenant en communion, tu appartiens, tu t'identifies au Père, au Fils et à l'Esprit. Et c'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je te baptise. » C'est quand même assez extraordinaire. Il n'y a pas d'autre Dieu que les hommes vont vous annoncer, que les êtres humains vont vous annoncer, que ce Dieu-là qui est aussi merveilleux que ça. Il n'y en a pas de Dieu aussi merveilleux que le Dieu qui se révèle à travers les Écritures. Jonathan Edwards dit « La seule raison de la création n'était pas d'obtenir la joie et l'amour cosmique des relations. » Quand Dieu crée l'univers, ce n'est pas parce qu'il souffre de solitude. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de relations. Ce n'est pas parce que Dieu avait besoin d'adoration. Je sais qu'on le dit souvent, moi-même, je le dis souvent ici, puis peut-être que ça devient un peu creux comme affirmation. Mais est-ce que vous comprenez que Dieu a couru vers des relations problématiques et décevantes en créant l'univers? Tu sais, tu as un couple qui va comme super bien, parfaitement. Est-ce que ce couple-là fait exprès pour tout bousiller? En introduisant quelqu'un dans la relation, un enfant qui va être tellement mal commode. Ce n'est pas le projet, vous comprenez? Mais Dieu n'était pas en manque relationnel. Dieu n'était pas en manque d'adoration. Je lisais Keller, puis à un moment, il dit, à l'intérieur de la Trinité, il y avait une parfaite adoration. Là, sur le coup, ça m'a comme, c'est un peu, Saint-Esprit adore, tu sais, pour moi, adore, c'est... Oui, mais adorer, c'est l'expression ultime de l'amour. C'est l'affection par excellence. Donc, c'est quand le Père dit, écoutez-le, en lui j'ai mis toute mon affection. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est de l'adoration, là. Tu ne peux pas aimer plus que ça, là. Je l'adore. Oh oui, C'est ça. Et donc, il y avait aucune lacune relationnelle en Dieu. Il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. Il n'y en aura jamais. Dieu n'avait pas besoin de la création. Il n'en a pas besoin. Il n'y en aura jamais besoin. Et donc, pourquoi est-ce qu'il crée un monde mal commode comme toi puis moi? Pour rentrer en relation, puis aller plus loin que ça, puis dire, je vais t'adopter, puis tu vas rentrer dans ma famille. Tu cherches le trouble, tu sais. Comme, ben non, tout va bien. Crée pas l'univers. Tout va bien, tout le monde est heureux. Vous êtes le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans le bonheur total. Puis Dieu décide de se faire bien de la misère. Puis quand on dit se faire beaucoup de misère, c'est vrai, parce que quand tu lis les Écritures, je veux dire, lis les prophètes, puis mes amis, on est un méchant fardeau pour Dieu. Quelle déception nous sommes. Sérieusement, pour Dieu, là. Donc, ce qui m'amène à dire que Dieu est profondément relationnel, c'est que Dieu n'avait pas besoin qu'on soit là. Il n'y avait aucun besoin de nous. Mais Dieu est relationnel, et de la générosité de cette relation parfaite que Dieu vit au sein de la Trinité, il dit, je vais créer des êtres, je vais les faire à mon image pour qu'ils aient conscience de mon existence, qu'ils comprennent qu'il y a un être relationnel qui les a créés. Vous voyez, toute la création glorifie Dieu, c'est vrai. C'est absolument vrai, jamais dans la nature. Mais toute la création n'a pas conscience de Dieu comme nous l'avons. Dieu nous a créés à son image. Dieu est relationnel et il a créé l'univers tout simplement parce qu'il voulait être en relation avec nous. Bien sûr, pour sa gloire, mais je veux dire, Dieu était parfaitement glorifié avant qu'on soit créé. Au contraire, on méprise sa gloire. Dans le paragraphe suivant, Augustin rappelle que l'amour entre les personnes de la Trinité est le modèle même de notre capacité à aimer. Dieu nous a créés à son image. On peut aimer, on peut l'aimer, on peut venir le rencontrer parce qu'on a été créés à son image. Alors, qui rencontrons-nous? Bien, on rencontre notre Père céleste. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'aspect unique de la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ, je dirais l'aspect le plus fantastique, c'est cette intimité avec le Père. Quand Jésus commence à parler, quand Jésus commence à enseigner sur Dieu, il utilise constamment cette expression, ce mot-là, « Père », et les Juifs l'utilisaient presque jamais. Dans l'Ancien Testament, si vous cherchez ce langage-là pour parler de Dieu, vous allez le trouver, mais à 2-3 reprises seulement dans tout l'Ancien Testament. Puis Jésus vient, puis il parle toujours de Dieu comme son Père. Bon, nous, on comprend que c'est Dieu le Fils, donc il y a quelque chose là, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il va nous dire, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est pour nous aussi, c'est notre Père à nous aussi. Ce n'est pas juste le Père du Fils au sein de la Trinité, là. Non, non, c'est notre Papa à nous aussi. Paul va aller plus loin en disant que le Saint-Esprit, hein, nous pousse à lancer un cri, Abba Père, Papa. Et donc, ce que Jésus vient nous révéler, c'est cette intimité avec le Père. Dans Jean 1, 12 et 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Mais un enfant a des parents. Moi, je suis un enfant de Dieu, ça veut dire que j'ai un père. Mon papa est au ciel. C'est le Père de Jésus. C'est le Père du Fils. C'est mon papa à moi. Galates 4, versets 4 à 6, « Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet Esprit que nous crions Abba, Père. » Et le terme ici, hébreu, c'est plus intime que Père. C'est Papa, c'est Pop pour mes enfants. Littéralement. Être enfant de Dieu signifie que nous avons un accès privilégié à lui, sans crainte ni condamnation, comme un enfant court vers son père. Nous pouvons venir à Dieu avec confiance et amour. Ce statut change notre approche de la prière. Et donc, moi, si ce matin, vous pouviez retenir une seule chose puis le pratiquer cette semaine, bien, en fait, j'espère pas trop vous mettre mal à l'aise, mais qui prie souvent en disant « Père » ? Peut-être que c'est la majorité. OK, bien, il y en a quelques-uns qui pourraient expérimenter quelque chose de nouveau cette semaine. Moi, je vous invite cette semaine, je ne vous mets pas au défi, je vous invite tout simplement à vous dire, chaque fois que vous allez prier cette semaine, commencez en vous adressant à Dieu, pas avec Dieu. Moi, ça me saisit toujours. Il y a plein de gens qui disent Dieu. Je le fais, là. Mais Dieu, c'est quand même un peu terrifiant à côté de Père. T'sais? Puis c'est toutes des dimensions de la personne de Dieu. Donc, je vous invite cette semaine, si vous retenez seulement ça de la leçon, quand vous allez prier, commencez avec Père ou Papa ou Pop, si vous voulez. Il ne sera pas offensé. Mais simplement pour parler de cette intimité-là. Il est là, il est disponible. J'ai juste besoin de dire « Père », puis j'ai toute son attention. Et là, il est disponible. Qui nous rencontrons, le Père? Qui nous rencontrons, l'Esprit d'adoption? Alors, l'Esprit Saint est plus mystérieux, puis on a moins d'instances dans les Écritures où on prie l'Esprit. Je pense que le plus souvent, on va prier notre Père au nom du Seigneur Jésus. Mais il m'arrive souvent de prier le Seigneur parce qu'il y a plusieurs prières qui sont adressées au Seigneur Jésus dans les Écritures. Et il m'arrive aussi de prier l'Esprit. Mais le rôle de l'Esprit dans la prière, c'est en fait l'agent qui rend tout possible. Si Jésus, par son sacrifice, m'ouvre l'accès à Dieu, l'Esprit est l'Esprit de Christ qui vient en moi. Et donc, mon union, ma communion avec Dieu, c'est pas simplement que j'ai accès. Tu sais, Dieu est au ciel, puis n'importe quand, je peux dire « Dieu! » J'ai son accès. « Papa! » Il m'entend. C'est pas simplement ça. C'est que l'Esprit Saint habite en moi. Je suis en communion constante avec l'Esprit de Christ. Constant. Et donc, c'est lui qui est l'agent qui rend possible cette communion-là qui est réelle. Bon, ça, Dieu va plus loin que ça encore, l'Esprit va plus loin que ça. Il nous habilite, il nous assiste, il nous appuie dans la prière, c'est ça qu'on voit. L'œuvre du Saint-Esprit est essentielle dans la prière. Elle n'est pas seulement une aide extérieure, mais c'est celui qui rend la prière possible en nous. Paul va dire dans Romains 8, 26, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » L'Esprit de Dieu habite en moi et Dieu est toujours avec moi. Je vous ai partagé dernièrement, je vous ai recommandé un bon livre cette année, qui est malheureusement juste en anglais, là, sur l'union avec Christ. Mais toute cette idée que je suis uni à Christ, puis Dieu ne va jamais défaire cette union-là, c'est en fait le fait que j'ai été scellé du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ habite en moi, il s'est attaché à moi, et maintenant, c'est nous. C'est très mystérieux pour moi. Mais ça change quelque chose dans ma vie de prière. Depuis peut-être 2 ans, je médite sur cette union avec Christ, et régulièrement, je vais dans la prière, puis je dis « OK, Père, qu'est-ce qu'on fait là? » Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai besoin de savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Puis quand je dis ça, je parle de lui et moi. Parce que vous comprenez, quand je suis sur une pente de ski, le Saint-Esprit est avec moi. Quand je suis en train de faire du sport, ou quand je suis engagé dans un conflit, ou si je suis en train de pécher puis consommer mon péché avec allégresse, le Saint-Esprit est avec moi. L'union est toujours là, constamment. C'est exactement, tu sais, quand le voile se déchire, Dieu annonce qu'il n'y aura plus cette séparation où « qualifie-toi, tu peux venir dans ma présence. Disqualifie-toi, je m'éloigne de toi. » C'est ça tout l'Ancien Testament. Le symbole du tabernacle, du temple, du lieu très saint, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Puis Dieu promet à travers les prophètes, « Un jour viendra où mon esprit vous sera donné, il sera en toi et plus jamais il ne te quittera. » Donc, il n'y a plus... Quand le voile est déchiré, c'est la promesse. Je vais vous donner mon esprit dans quelques jours. Vous allez recevoir mon esprit et plus jamais je vais me détacher de vous. Dieu, au prix de son nom, de son engagement, a lié à quelque part son esprit et le mien. Donc, le Saint-Esprit rend possible la prière parce que maintenant, je suis en train de parler avec celui qui est en moi. C'est pas Venom, là, ceux qui aiment... Les Marvel, puis les... C'est-tu Marvel, Venom? Non, c'est plus harmonieux que ça. Il n'y a pas de tension. C'est plutôt moi, Venom. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est, il s'est lié à moi, il a lié son esprit avec moi. Et en fait, ça va tellement loin que l'apôtre Paul appuie sur ça l'argument pour lequel un chrétien ne peut pas aller vers une prostituée. Non seulement c'est de la débauche, mais il dit, tu ne comprends pas, quand tu as une relation sexuelle avec une autre personne, il y a une communion spirituelle qui se passe. Tu ne peux pas aller vers une prostituée, mon bonhomme. Tu es en communion avec Christ. J'ai accompagné un ami à moi qui, pendant plusieurs mois, luttait avec la tentation, avec le péché de quitter son épouse. Et il avait fait le projet, c'était très clair, c'était très concret. Il avait annoncé à son épouse, « Je te quitte, je m'en vais. » Tout était planifié, tout était organisé. Il allait partir avec, avec une dame. Puis, je l'ai suivi pendant des mois. On parlait souvent de l'Évangile ensemble. Puis, il y a un moment, j'ai contacté son épouse, puis j'ai dit, « Écoute, je lui parle demain, tu le sais. Je pense que c'est fini. Je pense qu'on l'a perdu. » Son épouse était impeccable dans tout ça. Une attitude tellement gracieuse. Elle n'était pas comme, « Salaud, tu m'as trahi. » Non, elle était remplie d'esprit. C'était incroyable. Puis, j'ai dit, « Je pense qu'on l'a perdu. » Donc, le lendemain, on se parle. Je suis en train de lui dire toute mon affection pour lui communiquer l'affection de Dieu pour lui. Puis, donc, je lui rappelle l'Évangile. Puis en lui rappelant l'Évangile, je lui dis, « Tu sais, je pense que tu vas faire les conneries que tu te prépares à faire, puis je pense que tu as le Saint-Esprit de Dieu, fait que tu vas le regretter après toute ta vie. Tu vas revenir, puis Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Tu vas porter comme cette flétrissure-là dans ton âme d'avoir fait tout ça alors que tu avais l'Esprit de Dieu en toi. » Mais j'ai dit, je veux que tu saches que lorsque tu vas revenir, moi, je vais être là. Je vais être là complètement disponible pour toi. Puis, dans la conversation, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai vu dans son regard qu'il y a quelque chose qui se passait, mais il n'y a rien mis sur la table, fait qu'on s'est laissé comme ça. Donc, c'était comme un adieu. T'sais. Va vers ton péché, que veux-tu? En fait, je lui avais dit dans cette rencontre-là, si effectivement tu n'es pas chrétien, tu fais vraiment le meilleur choix que tu peux faire. Parce que dans quelques temps, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Fait que va te payer un bon temps, mon ami. La semaine d'après, on s'est parlé, puis cette nuit-là, il n'a pas dormi de la nuit. L'Évangile est devenu concret dans son cœur. Il a écrit à la personne avec qui il allait partir, « Je ne peux pas quitter mon épouse pour aller avec toi. » Pas parce que mon cœur appartient à mon épouse, mais c'est parce que mon cœur appartient à Christ. Et donc, je ne peux pas te donner mon cœur, il appartient à Jésus. C'est exactement l'argument de Paul pour lequel on ne peut pas aller vers une prostituée. C'est que j'irai dans une communion spirituelle alors que ma communion spirituelle est avec l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu qui habite en moi rend tout possible au niveau de la prière. Parce que cette intimité-là est tellement grande que si j'allais vers une autre personne et que ce serait de la débauche, je suis en train d'offenser cette intimité-là qui est en moi, entre l'Esprit et moi. La prière est rendue possible par l'Esprit de Christ qui habite en moi, parce que son Esprit s'est uni à moi. Donc, lorsque je vais dans la prière puis que je pense à la Trinité, je pense au Père. Parce qu'il y a une dimension de cette intimité-là qui est tellement différente de Dieu. Non, Père, Papa. Mais l'autre dimension, c'est que je sais que Dieu est là parce qu'il est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis uni à Christ par l'Esprit d'adoption qui est en moi. Et cet Esprit d'adoption est tellement fort. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais que certains ont des difficultés à le vivre comme ça. Peut-être votre relation avec votre père fait que votre vision du père, c'est comme, s'il te plaît, Yannick, arrête de me parler du père. Non, le Seigneur veut t'amener là, ça c'est clair. Moi, dans mon cas, au contraire, justement, cette conviction profonde à cause de l'esprit d'adoption qui est en moi, qui me dit, oui, c'est ton père. C'est ton père. Il t'écoute autant qu'il écoutait Jésus de Nazareth, qu'il écoute Dieu le Fils. Il y a la même attention pour toi. Tu es co-héritier, tu fais partie de la maison de Dieu. Tu n'es pas un étranger de passage dans la maison de Dieu. Non, tu as ta chambre à coucher. Tu fais partie de la famille, tu portes mon nom maintenant. Tu es un chrétien. Mais ça, c'est l'Esprit Saint qui fait ça en moi. C'est lui qui fait ça en moi. Ce n'est pas une lubie, ce C'est pas que je cherche à m'endoctriner, à me brainwasher, puis à me dire non, Dieu est avec moi. Non, c'est un lieu de repos. J'expérimente tout simplement le fait que l'Esprit est en communion avec moi. Troisième personne de la Trinité, puis on vient à la deuxième, le médiateur. Qui on rencontre quand on va dans la prière? La prière, c'est une rencontre avec le Père, avec l'Esprit, mais évidemment avec celui qui est notre médiateur, celui qui a rendu tout possible par son sacrifice à la croix. Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Quand vous avez des amis qui sont croyants et qui prient Dieu sans connaître Jésus, je ne dis pas que Dieu n'entend pas leurs prières, au contraire, parce qu'on a même des exemples bibliques où Dieu entend des prières. Mais vous comprenez que c'est comme essayer de rentrer dans la maison en passant par la cheminée. Littéralement, là. Non, Jésus, c'est la clé. Jésus, c'est la clé. C'est lui le médiateur, c'est lui qui rend tout possible. C'est lui ma voie d'accès. Quand le Père me voit, il voit Christ et son œuvre. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois un gars qui vieillit, mais plus que ça, là. Je vois un saint qui pêche trop souvent. Mais quand Dieu me regarde, ce qu'il voit, c'est Christ et son œuvre. Parce que sa justice à lui m'a été imputée. Fait que Dieu a l'affection pour moi qu'il a pour son Fils. Parce que la justice de Christ m'a été imputée. Dieu ne voit pas une grande déception. Moi, quand je me regarde sans me considérer à travers la grâce de Dieu, ma fierté embarque, puis là, je dis, ah, il a été bien minable comme chrétien. Il me semble qu'après autant d'années de vie chrétienne, tu devrais être rendu plus loin. Monsieur le pasteur, regarde-toi donc. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne me regarde pas en disant, en tout cas, tu es décevant, copain, là. Non, il me regarde à travers l'œuvre de Christ. Il peut me châtier, il peut me reprendre, il peut me corriger. Dieu n'est pas aveugle à ce qu'il a travaillé en moi. Mais son émotion envers moi est toujours transigée par l'œuvre de Christ à la croix. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est vraiment merveilleux. On a un médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui rend possible notre accès à Dieu. Le Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. John Murray va dire « L'intercession de Christ est une preuve de son amour inaltérable et de sa sollicitude constante pour nous. » C'est comme si, imaginez Dieu le Fils qui est toujours en train de chuchoter dans l'oreille de mon Père. « Yannick, c'est ton fils. Je te dis, prends soin de lui. Je l'ai à cœur. J'ai donné ma vie pour lui. » Il est toujours en train d'intercéder en ma faveur auprès du Père. Il n'y a pas de moment où Jésus est distrait, puis là, tout d'un coup, tu sais, c'est comme si je dépassais de la jupe de Jésus, puis là, le Père me voyait tel que je suis. Non, Christ est toujours en train de s'interposer entre tout être qui voudrait dire à Dieu, le diable qui voudrait se présenter devant Dieu, puis dire, « Sérieux, Yannick Étier, minable! » Si tu voyais ces pensées-là, ce matin, je m'en allais dans la prière puis je disais au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux avoir un repos de mes pensées stupides et mesquines? Je m'épuise moi-même. Mais le diable ne peut pas se présenter devant Dieu puis dire, Yannick, tu ne vas pas écouter ce gars-là. Donc, constamment, entre le Père et moi, il y a Jésus qui est là en train de lui chuchoter à l'oreille, c'est ton enfant. Il fait partie de la maison. Je l'aime, j'ai donné ma vie pour lui. Le diable n'a aucun accès à Dieu le Père pour briser ma communion avec Dieu. Parce que Christ est constamment là comme médiateur. Il va l'être pour l'éternité. C'est mon frère. Il a donné sa vie pour moi. C'est juste incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on prie au nom de Jésus. On vient vers Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Le plus souvent dans les Écritures, on va prier au nom du Seigneur. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de combats avec la prière, parce que tu dis, ouais, mais moi, je demande le salut de mes enfants. Ça fait 30 ans que je prie pour eux. Ça fait 50 ans que je prie pour eux. Continue à prier avec foi. Tu as un accès parfait auprès du Père. Dis à Dieu, j'accepte pas un nom, Seigneur. Je prie selon ta volonté, je prie pour leur salut. Là. Il n'y a pas de nom qui va passer avec moi. Deviens Moïse un peu, hein, tu sais. Va entre Dieu et le peuple. Avec confiance. Prie dans le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Car grâce à lui, nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Prier au nom de Jésus ne signifie pas seulement ajouter une formule finale, mais c'est reconnaître qu'il est notre seul accès au Père. Nos prières sont entendues parce qu'elles sont faites en lui. Donc, prier le Dieu trinitaire, c'est venir à la rencontre d'un être parfaitement relationnel. Si aujourd'hui, pour toi, la prière, c'est encore une espèce d'exercice impersonnel parce qu'il y a une dimension de foi, Dieu n'est pas physiquement présent, il ne va pas toujours te faire un gros câlin, tu ne vas pas quitter tous les temps de prière comme si tu avais fait un gros câlin spirituel, quoique la majorité de tes temps de prière devraient se terminer comme ça. Et probablement que si ce n'est pas ce que tu vis régulièrement, c'est que tu ne passes pas assez de temps encore dans la prière pour aller prendre ces mots qu'il te dit dans sa parole, puis aller les traiter avec Dieu dans la prière, jusqu'à temps que ces mots-là résonnent en toi comme une vérité qui définit ce que tu ressens. Ton cœur est complètement désaccordé, là. Esther pourrait prendre son violon puis vous faire entendre un violon désaccordé. Vous souffririez comme ce n'est pas possible. Ton cœur peut être complètement désaccordé avec Dieu. Tu prends les paroles de Dieu, c'est ses mots, c'est ses paroles. C'est lui qui les a écrites, qui les a inspirées. Tu prends ça, tu t'en vas dans la prière, jusqu'à temps que, quand Esther prend son diapason, là, puis elle fait sonner, elle écoute, puis là, elle ajuste son violon, là, exactement le même son. Je vais prendre les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, je vais rester dans la prière jusqu'à temps que ça devient parfaitement au diapason. Et si Dieu est pour toi un être impersonnel dans la prière, c'est probablement parce que tu n'as pas passé encore assez de temps à faire ça. Prends une promesse. Mme Paradis a posé la question. Ésaïe 30, verset 15. Prends Ésaïe 30, verset 15 cette semaine. Regarde si ton cœur est au diapason avec ce passage-là. Moi, cette semaine, à plusieurs reprises, j'avais perdu la note, là. Et comme l'anxiété, le stress, un peu d'apitoiement personnel. Le pauvre de petit moi. Pourquoi est-ce que je souffre de ceci? C'est ça que je vivais, là, je vous dis, mon expérience cette semaine. Je voyais bien, là, c'était discordant. J'avais perdu ma note. Je prenais mon passage, j'allais dans la prière, jusqu'à temps que je sois au diapason avec Dieu. Et là, j'expérimente un gros câlin de Dieu. Quand je quitte la prière, mon cœur est rempli de repos, de paix, de joie. C'est de ça que ça parle, ce passage-là, de repos en Dieu. Cet accès-là a eu un coût, c'est Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Et parce que ce coût-là a été payé, on a la garantie que ce droit-là ne nous sera pas révoqué. Je sais que je vais toujours avoir accès à Dieu parce qu'un prix réel, nécessaire, a été parfaitement, entièrement assumé par Christ à la croix. Ça a été payé. Je n'ai pas de dette envers Dieu. Ah, j'ai une dette d'amour, mais je n'ai pas de dette envers Dieu. Parce que le prix a été payé, tout est réglé, la facture est payée pour l'éternité. Et donc, ce Dieu trinitaire-là est complètement disponible pour moi. Il nous reste quelques minutes pour des questions ou s'il y en a qui veulent nous partager comment vous expérimentez cette intimité-là avec Dieu. On a un peu de temps pour échanger ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous partager comment vous avez pu grandir dans votre intimité avec Dieu? Ça peut être plus simple que tout ce que j'ai dit. Je me souviens, Richard Roll, un des premiers trucs qu'il donne quand il dit « Tu veux apprendre à prier? » Ça te prend un crayon puis du papier. Parce que tu vas être distrait souvent dans la prière. Fait que fais juste écrire toutes tes distractions puis continue à prier. Qu'est-ce qui vous a permis de grandir dans la prière, personnellement? J'aimerais savoir une ou deux personnes. Martin, est-ce qu'on a un micro? Oh, on a un micro qui s'en vient vers toi, juste ici. Monsieur Saunier, s'il te plaît. Merci.
Mais pour moi, dans ma relation de prière avec Dieu, souvent il y avait ce côté-là, parce que je me défoulais. Je sais pas ce que si tu comprends, mais je, comme, oui. Je vidais mon sac. Mm. Puis c'était papa ça. Puis à un moment donné, il y a eu comme un déclic qui s'est fait parce que de prier jusqu'au temps que je prie, que je sois en relation, puis que là, je sois à l'écoute de ce que Dieu voulait. Pas seulement un monologue que moi, je dis ce que j'ai à dire ou que j'exprime tout ce qu'il y avait sur mon cœur, mais à un moment donné, il y avait comme un déclic qui se faisait où ce que une paix qui se donnait un peu comme tu disais, où ce que enfin, tu sais, un rythme, c'est là où ce que les versets popaient dans ma tête. Puis là, ben, puis là, après ça, je sortais de ce temps de prière-là où ce que j'étais comme tu disais tantôt, glorifié, puis merci Seigneur, puis je sais où ce que je m'en vais. Mm. Puis il y a une paix qui s'installait malgré les inquiétudes, malgré les soucis, malgré tout. Fait que c'est un peu
ce c'est excellent.
Le temps que je prie.
Oui, c'est excellent. Puis je veux dire, ça ressemble à beaucoup de psaumes qui, justement, il y a beaucoup de psaumes hein, au Québec, on dit chialer, mais tu sais, ça commence avec du chialage solide, là.
Ouais.
Bon, mais tu as appris avec le temps à continuer à prier jusqu'à temps que ton cœur arrive à un autre endroit, ses promesses prennent une autre forme. C'est génial.
Mais l'encouragement, c'est de dire, oui, on a besoin de sortir, tu sais, mais on a besoin d'écouter aussi, puis se donner le temps d'écouter. Puis des fois, on ne se donne pas le temps. T'sais, pour moi, ça veut dire de se lever à 5 heures du matin au lieu de me lever à 6 heures pour avoir le temps de le faire. Il faut aussi être discipliné dans ce côté-là puis se donner le temps de le faire en sachant qu'on a tellement de tracas, de soucis, on a de la misère à connecter avec Dieu, mais il faut se donner le temps de le faire aussi.
Amen.
Part, en tout cas,
amen. Amen. Martin Luther, ça va vous sembler excessif, mais il disait, si je ne prends pas 2 heures par jour avec le Seigneur, je suis incapable de faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Fait que c'est pas besoin d'être 2 heures. Mais oui, ça prend du temps, parce que souvent, lorsqu'on va dans la prière, avant que qu'on soit rempli de l'Esprit pour vraiment prier par l'Esprit, ça prend du temps. Il y a de l'anxiété, il y a du stress. Et si tout ce qu'on fait, c'est comme lui apporter tous nos fardeaux, sans attendre ce moment où mon cœur rentre dans la paix, c'est bien. C'est beaucoup mieux que rien, là. Okay? Mais le problème, c'est que je peux partir aussi stressé que je l'étais avant dans mon temps de prière. Puis, je peux à la limite entretenir de la colère, parce que tout ce que je fais, c'est dire ma colère sans continuer à prier jusqu'à temps que Dieu m'amène ailleurs. Merci, Martin.
Mais juste pour continuer ce que tu dis, souvent, c'est qu'on amène notre fardeau à la croix, puis après ça, on repart avec notre fardeau.
Oui, au lieu de le déposer. Ouais. Exactement. Merci, c'est génial. Quelqu'un d'autre? Oui, Suzy, juste un instant. Un petit micro qui s'en vient sur deux pattes vers toi. Ah non, ici, Suzy. T'avais-tu levé la main, Carmen?
Oui.
OK, après Suzy. On vient à toi.
En fait, c'est que tantôt, tu parlais de est-ce qu'on prie l'Esprit. Puis, dans mes temps de prière, quand je m'adresse à l'Esprit, c'est vraiment avec humilité en disant, tu sais, il y a tellement de choses que je ne comprends pas de mon cœur, de mes idoles, de tout ce qui peut être là qui est vraiment, pas parce que je veux m'éloigner de Dieu, mais parce que je suis tellement humaine, puis je suis... Fait que quand je prie, l'Esprit, c'est vraiment, ben t'es en dedans de moi, toi, t'as accès à mon cœur, sonde mon cœur, puis montre-moi où est-ce que je suis en train de chirer, où est-ce que je suis pas en diapason avec toi.
Puis, oui.
Fait que moi, c'est comme ça que je m'adresse au Saint-Esprit en me disant, ben à cause de Jésus, t'es en moi, puis toi, t'es capable de regarder, puis de me transformer. Hein. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous amène nos péchés, puis qui nous permet de les confesser, puis de s'humilier, puis de ne pas s'écraser, mais de se relever, parce qu'il nous donne aussi ce pouvoir-là de vouloir y faire et vouloir combattre avec lui. Mais c'est lui qui nous le demande. Fait que,
c'est un bon exemple. C'est 100% d'accord avec toi sur ton approche avec l'Esprit-Saint. Il y avait Carmen ici en avant. Puis si tu vas avoir le mot de la fin, Carmen, après on va prier. Après, je vais copier Clément, puis on va prendre quelques minutes dans prière en sous.
Moi, chaque soir, quand je vais me coucher, c'est dans mon lit.
Tu veux t'approcher ton micro? J'entends pas bien.
Moi, chaque soir, quand je m'en vais me coucher, c'est dans mon lit que j'ai affaire avec Dieu. Je lui dis, merci pour la journée que tu m'as donnée.
Mm.
C'est tellement important pour moi.
Mm.
Puis je sais que demain, quand je vais me lever, bien, tu vas être encore là.
Amen.
Et j'ai pas mon dire des tracas que je peux avoir, que vous savez, là. Faut que je le fasse passer par-dessus tout ça. Même si j'ai eu un moment de stress, OK, mais que c'était tellement aigu que Il n'y avait pas le Dieu au-dessus, puis ni quoi. C'était complètement neutre pour régler le problème, puis il n'y a pas de problème à régler là-dessus. Mais en étant seul dans mon lit, je me prenais des relaxations de respiration, puis je demandais à Dieu de m'aider à passer à travers de ça, et que c'est d'y croire à Dieu.
Ouais.
C'est important de croire. En croyant, en croire en Dieu, ben ça me calme et ça me donne tout un espoir. On ne dit pas l'Église de l'espoir pour rien, hein?
Mais
ça me donne un espoir de continuer et me battre pour pouvoir continuer à faire une vie normale.
Merci, Carmen. Merci. C'est une des plus belles manières de s'endormir, c'est s'endormir en priant. J'espère pour vous que vous vivez ça régulièrement. On va aller dans la prière. Juste tournez-vous autour de 2-3 personnes. On prend 4-5 minutes dans la prière. Puis quand vous avez terminé, vous arrêtez de prier, puis les gens vont commencer à venir, d'accord? Donc, juste vous tournez autour de... pas loin, là, déplacez-vous si c'est nécessaire. 3-4 personnes maximum. On prie ensemble, librement tout de suite. Prenez pas 5 minutes pour partager vos requêtes. Vous allez être dérangé, ce sera